Ça fait un moment que vous le réclamez. Je me suis rendu compte que ça faisait un bout que je n'ai pas fait sur le podcast. Donc aujourd'hui, on parlera de travail. Mais pas travail dans son ensemble. Non, on parlera d'évolution professionnelle. On parlera de poste de leadership et de direction. Et on parlera de gestion d'équipe. Donc si tu es de celles qui aspirent à avoir ce type de poste, ou alors si tu as ce genre de poste et tu ne t'en sors pas, cet épisode est pour toi. Parler de ce sujet-là, on le fera en deux parties. La première partie, on parlera d'évolution professionnelle et de leadership, qu'est-ce que c'est exactement. Et ensuite, je répondrai à des questions parce que j'ai reçu des questions sur le sujet. Donc, commençons par l'évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Depuis qu'on est enfant, on nous dit que pour évoluer dans le cadre du travail, il faut s'élever dans l'échelle professionnelle, c'est-à-dire que dans l'organigramme professionnel. Donc, on commence stagiaire, ensuite on est confirmé, on est assistante, après on est coordinatrice, après on est officier, then on est manager et après on est directrice ou directeur. Et donc, tout le monde s'attend naturellement à être promu après un certain nombre d'années sur le terrain. Parce qu'on se dit « je suis compétente ». Ça fait un moment que je suis là, je maîtrise les rouages, je dois être récompensée, il est temps que j'évolue. C'est une erreur, parce que des années de travail ne signifient pas que tu dois évoluer à un poste de gestionnaire d'équipe, parce que ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes requirements dont on a besoin pour gérer une équipe. Mais ça, je vais y revenir. Commençons par l'évolution professionnelle horizontale et l'évolution professionnelle verticale. La verticale est celle qu'on connaît. Il faut s'élever dans l'échelle professionnelle. On passe le stagiaire et on arrive à sa vie professionnelle quand on termine directeur. Pourtant, il y a un autre type d'évolution professionnelle dont on ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de gérer une équipe. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à gérer une équipe. Il y a des personnes qui sont bonnes dans ce qu'elles font et qui veulent continuer à faire ce qu'elles font. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que quand tu évolues dans l'échelle professionnelle, tu cesses de faire ce pourquoi tu avais été embauché à la base. Prenons un exemple simple. Tu es dans le droit, dans les droits humains, et tu veux défendre les droits humains sur le terrain. Tu le fais quand tu es stagiaire, tu le fais quand tu es assistant, tu le fais quand tu es confirmée, coordinatrice, officier. Une fois que tu es manager, une fois que tu es directrice, tu le fais nettement moins. Ton travail, c'est beaucoup plus la gestion de l'équipe et t'assurer que l'équipe a tout ce qu'il faut pour avancer. Ça, on ne le dit pas souvent. Donc, les personnes qui sont lucides, qui le savent, certaines d'entre elles décident d'évoluer de manière horizontale. C'est-à-dire qu'elles veulent se perfectionner dans leur domaine, donner tout ce qu'elles ont, ne jamais cesser de faire ce qu'elles font, mais continuer d'évoluer. Après, ça dépend aussi de comment l'entreprise est structurée et si elle comprend ce type d'évolution. J'en ai parlé sur LinkedIn où je parlais d'un collègue qui, lui, n'aspirait à aucun poste managérial. Il aimait ce qu'il faisait et il ne cherchait aucunement à s'élever dans l'échelle de l'organigramme. Même quand les postes se libéraient, il ne postulait pas. Il ne voulait pas. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'est parce qu'il aime ce qu'il fait. Il ne veut pas cesser de faire ce qu'il fait pour s'occuper d'une équipe, pour gérer une équipe. Non, il aime ce qu'il fait. Et les années d'expérience qu'il a, les années dans l'entreprise, il avait déjà passé plus de 10 ans dans l'entreprise, le faisait évoluer d'une autre manière. Son salaire augmentait et il était meilleur dans ce qu'il faisait parce qu'on lui offrait des formations, on lui offrait des voyages d'immersion. And he was fine. Il aimait ce qu'il faisait, il ne voulait pas arrêter de le faire. Malheureusement, on ne présente pas souvent l'évolution horizontale. Pourtant, elle pourrait aider beaucoup de gens qui, dans leur personnalité, ne sont pas forcément des leaders. Ils ne veulent pas encadrer une équipe. Ils ne veulent pas cesser de faire ce qu'ils font. Ils veulent juste faire ce qu'ils font. Et quand on parle d'évolution professionnelle verticale, on n'explique pas comment ça se passe. Ce n'est pas une question de compétence. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur dans le domaine que tu dois absolument être à la tête de l'équipe. Ce n'est pas les mêmes demandes, ce n'est pas les mêmes attentes, ce n'est pas les mêmes requirements. C'est-à-dire que tu peux être un très bon designer. Tu es superbe dans ton domaine, ça fait 10-15 ans que tu le fais, tu es l'un des meilleurs du marché. Et donc, tu décides que là où tu travailles, il faut que tu sois à la tête de l'équipe. Et donc, tu es très, très, très bon designer. Tu es à la tête de l'équipe. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses que tu dois faire, c'est donner des ordres, t'assurer que les objectifs sont atteints, crier par-ci, crier par-là, et penser que c'est toi qui es le dernier ou pas que tu es le chef aujourd'hui. This is not how it works. Quand on parle de management, quand on parle de leadership, il faut déjà comprendre une chose, c'est que les deux sont différents. Généralement, on te dit, ouais, je suis manager, donc je suis leader. Non, ce n'est pas la même chose. Le management, c'est la focalisation sur la planification et sur la gestion des ressources pour atteindre les objectifs. Le leadership, c'est plus l'influence, l'accompagnement, l'encadrement pour atteindre les objectifs. Donc, tu peux être un bon manager, tu peux être un bon leader, tu peux être un bon leader et manquer la partie management. So, les deux doivent être associés. Et souvent, on se dit, je comprends le plan, je comprends la stratégie, je comprends les objectifs, je dois être à la tête de l'équipe. Non. La bonne personne qui gère l'équipe, ce n'est pas la personne qui est la plus compétente. C'est la personne qui sait l'idée. C'est la personne qui sait inspirer l'équipe. C'est la personne qui sait injecter de l'espoir à l'équipe. C'est la personne qui sait tirer le meilleur de chacun dans l'équipe pour pouvoir atteindre les objectifs selon la planification, la stratégie et les ressources à disposition. Généralement, on se dit, quand je suis manager, quand je suis à la tête de l'équipe, je suis la personne suprême et eux, ils sont en dessous de moi. En fait, non. Le manager est au service de son équipe parce qu'il doit s'arranger à créer les cadres qu'il faut pour travailler. Quelles sont les règles d'interaction? Comment est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on communique? À qui et à quel moment? Comment est-ce qu'on gère les conflits? Comment est-ce qu'on inclut tout le monde? Comment est-ce qu'on s'assure que toutes les voix sont entendues? Comment est-ce qu'on s'assure que si on est en mode, on arrive à s'en sortir, si dans l'équipe on est 8 par exemple, 4 veulent aller à droite, 4 veulent aller à gauche, à quel moment est-ce que le manager décide, en fait, on va à droite ou à gauche? Sur quoi est-ce qu'il se base? Et comment est-ce qu'il fait comprendre à son équipe quel est son processus de pensée, de réflexion, de décision pour que toute l'équipe puisse le suivre volontairement, pas parce qu'ils sont obligés? Comment est-ce qu'on crée un cadre de confiance? Quel est le cadre de résolution des problèmes? Quels sont les processus de collaboration? Est-ce que tout le monde comprend quels sont les enjeux? Est-ce que chacun sait exactement ce qu'il doit faire pour qu'on puisse évoluer? C'est ça, en fait, le rôle du leader. Il doit pouvoir inspirer. Il doit pouvoir faire comprendre quelle est la vision et la mission. Et il doit pouvoir vous rallier à ce qu'il a envie d'accomplir. Généralement, on pense qu'il faut obliger l'équipe. C'est moi le chef, je fais ce que je veux. Non. On ne doit pas travailler parce qu'on est obligé de travailler. Sinon, on travaillera mal. On doit être inspiré. On doit avoir une mission commune. Et ça, c'est le rôle du leader. C'est ça son état de travail. Comment est-ce qu'il fait pour que tout le monde soit aligné et travaille correctement pour l'atteinte des objectifs? Et en même temps, il doit avoir un côté manager. Parce qu'il faut planifier, il faut une stratégie, il faut les ressources, il faut s'assurer que chacun a ce dont il a besoin pour atteindre les objectifs qu'il faut. Et vous voyez donc que là, ce n'est pas une question de compétence, c'est-à-dire que tu peux savoir balayer autant que tu veux, ça ne veut pas dire que tu seras le meilleur chef balayeur. Je vous ai parlé de ce livre il y a quelques temps, quand je parlais de mon rapport à la parentalité et au travail. Et c'est le livre de Indra Nooyi, qui est former chairman and CEO de PepsiCo. Le titre, c'est « My life in full, work, family and our future ». Et quand je parlais de ce livre, je disais que je l'ai acheté parce que je comptais comprendre son rapport à la parentalité, à la famille et au travail, comment est-ce qu'elle a pu allier les deux pour arriver au point où elle était, c'est-à-dire CEO de PepsiCo, qui n'est pas un petit poste. Quand j'ai lu le livre, je me suis rendu compte qu'il n'était pas ce que je pensais. Ce livre est très bon, mais pas forcément pour comprendre les interactions entre l'équilibre entre famille et travail. Il est très bon pour comprendre ce qu'il faut pour être un bon leader, un bon manager, un bon CEO. En réalité, pourquoi est-ce que je recommande ce livre? Parce que vous verrez qu'avant d'être à PepsiCo, Indra Nooyi était dans le textile. Tout à l'heure, je parlais de compétences. On pense qu'il faut être le meilleur dans son domaine pour pouvoir être compétent. C'est les vacances, c'est les enfants qui jouent dehors, vous allez les entendre crier. Donc, je disais, on pensera qu'il faut avoir les meilleures compétences dans son domaine pour pouvoir être un bon manager. En réalité, non. Un bon manager, un bon leader peut être leader quel que soit le domaine. Elle est partie du textile pour de l'alimentaire. Ce n'est pas lié, mais elle a brillé dans les deux parce qu'elle a compris les processus de gestion d'équipe, d'accompagnement d'équipe. Elle a compris quel est son rôle dans l'entreprise. Elle doit comprendre tous les rouages de l'entreprise. Elle doit inspirer l'équipe. Elle doit inspirer le staff. Elle doit pouvoir les diriger sans les frustrer. Il y aura quand même certaines frustrations, ça c'est clair, mais sans être à l'origine de sentiments de dégoût pour le travail. Et franchement, toute femme qui veut évoluer dans sa carrière professionnelle, je recommande ce livre-là, My Life in Full, Work, Family and Our Future de Indra Nooyi, où elle explique comment est-ce qu'elle a passé les différents caps pour arriver à CEO de PepsiCo. Et vous comprendrez aussi comment est-ce que les entreprises fonctionnent. Parce que généralement, on se dit, j'ai fait 15 ans là, je mérite de monter. Non, en fait, est-ce que tu as compris ce que c'est que la gestion d'entreprise dans son ensemble? Parce que c'est pas parce que tu es manager de l'équipe informatique que ça s'arrête là. Non. Comment est-ce que l'équipe informatique s'insère l'entreprise, dans son ensemble? Ça, c'est ton travail. Tu dois avoir une vision aussi large qu'étroite. Large parce que tu dois comprendre quel est votre rôle global dans l'entreprise et étroite parce que tu dois te focaliser sur ton équipe pour t'assurer qu'elle atteint les objectifs. Donc, la compétence ne veut pas forcément dire que tu dois être chef. L'ancienneté ne veut pas forcément dire que tu dois être chef. Ce n'est pas lié. Est-ce que tu as les compétences qu'il faut pour être un bon manager? Est-ce que tu as les compétences qu'il faut pour être un bon leader? Those are the questions you should ask yourself first. Là, on va passer à la réponse aux questions. Les questions, je les ai reçues sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, ce serait peut-être bien de le faire parce que j'y produis du contenu quotidien. Si tu aimes bien mon contenu, ce serait bien que tu le fasses pour pouvoir l'avoir tous les jours. La première question est celle de mon cousin. Je la lis en premier pour lui montrer à quel point il reste important pour moi. Et sa question c'est, comment prendre l'initiative lorsque la situation l'exige? La question est vague, donc je vais y répondre comme je comprends. Si tu dis qu'il y a que la situation exige l'initiative, alors elle doit être prise. Donc, on n'est pas dans le doute. On fait ce qu'il y a à faire. S'il y a exigence, on agit. Si tu es dans le doute, alors tu ne fais pas ce qu'il faut. Et rien ne marche parce qu'on a un problème que tu ne résous pas. Si c'est parce que tu n'as pas un poste de décision et tu ne peux pas te permettre de le faire sans l'aval de ton supérieur. Tout dépend de l'équipe, tout dépend de comment est-ce qu'elle est structurée, tout dépend de la personne qui gère l'équipe. Est-ce que c'est un bon leader? Est-ce que c'est un chef qui estime que c'est sa cour et on fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut? Ou alors, est-ce que c'est un leader qui inclut l'équipe dans la prise de décision? Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Quand on est à la tête d'une équipe, l'idée n'est pas qu'on soit la seule personne qui prend les décisions. L'idée est qu'on délègue la prise de décision, du moins à un certain niveau, à son équipe, pour qu'on ne soit pas toujours impliqué dans tout. Parce qu'il y a aussi une question de confiance. Il faut pouvoir instaurer la confiance, qu'on ait confiance en toi et ait confiance en ton équipe. Et ça revient à qui est-ce que tu as dans ton équipe? Parce que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Donc, il faudrait que chacun ait quand même un niveau de décision pour que tu ne sois pas appelé, qu'il faut déplacer un stylo. Sinon, ça, c'est du micromanagement and you're not doing your job. Donc, quand tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment agir quand la situation l'exige? Si tu n'as pas un supérieur qui délègue son autorité, ça va être compliqué. Comment est-ce que toi, tu peux l'idée du bas vers le haut? Ça, c'est notre question. Et si vous voulez qu'on en parle, qu'on fasse un épisode dessus, dites-le moi en commentaire. La deuxième question, c'était comment s'imposer en tant que manager, en devenant un leader. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était différent, en devenant un leader. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. On ne gère pas parce qu'on a l'autorité et puis on oblige les gens à faire ce qu'on veut. Non. Et puis, cette personne qui pose la question, elle se reconnaîtra, elle sait que je la connais, elle sait qu'on a déjà parlé de ce souci-là. Donc, je me permets de donner un contexte, parce que dit comme ça, c'est un peu vague. En réalité, elle est la plus jeune dans le board of directors. Et donc, elle a l'impression que les itérations portent plus sur son âge que sur son poste. Et quand on en a parlé, je lui ai demandé de me décrire une instance où elle n'a pas été respectée, où elle a estimé qu'en tant que directrice, elle n'a pas été respectée. Et donc, elle m'a dit que le N-1 d'un de ses collaborateurs lui a fait un mail en lui disant « c'est moi qui décide, je fais ce que je veux ». Basically, c'était ça. Et je lui ai posé la question quelle a été ta réaction. Elle a déjà répondu à un mail pour lui expliquer qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut, que c'est moi qui décide. Et je lui ai dit, en fait, tu t'es comporté comme ton âge et non comme ton poste. Tu es venu expliquer pourquoi est-ce que tu as l'autorité. Non. Tu sanctionnes. C'est ça aussi avoir l'autorité. Tu lui montres que tu n'es pas sa cousine. Et c'est ton poste. Tu es là en tant que directrice et non en tant que toi qui as l'âge que tu as. Donc déjà, toi-même, est-ce que tu te comportes comme ton poste? Et quand on a travaillé dessus toutes les deux, on s'est rendu compte que non. Elle ne se positionnait pas comme directrice, elle se positionnait comme la plus jeune du board of directors par son comportement. Elle ne sanctionne pas, elle explique, elle justifie sa présence et sa position et elle demande. Quand je dis demander, c'est pas exigence. Elle demande en mode un peu supplication. Est-ce que vous pouvez me respecter par rapport à la position que j'ai? Non. Il y a des voies et moyens pour que toi, en tant que directrice, tu puisses faire valoir ton autorité. Et la question que je lui ai posée, c'était où est la demande d'explication? Je n'ai pas entendu parler de la demande d'explication depuis qu'on discute. Tu m'as dit que tu as fait un mail pour lui expliquer, tu as refait un mail pour te dire qu'elle fera ce qu'elle veut encore, et whatever. Je n'ai pas entendu que tu as inclus les HR et que tu as fait comprendre à cette jeune fille qu'elle est N-1. C'est ça aussi, parfois, être manager. Il faut savoir se faire respecter en se respectant déjà soi-même par rapport au poste qu'on a et en exigeant le respect, en utilisant les voies et moyens à disposition pour faire comprendre qui tu es. Donc, la troisième question, c'est comment rester maître de ses émotions en situation de crise majeure? Quand tu dis maître de ses émotions, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu pleures au travail? Et quand je le dis, c'est pas méchamment, il m'est arrivé, moi, de pleurer en pleine mission. Je me suis retrouvée à pleurer comme un enfant. Donc, parfois, tu es dépassé, tu pleures. So, it's not something. C'est pas pour me moquer, pour te dire que c'est mauvais. Non, on parle de gestion. Quand tu dis gestion, comment maîtriser ses émotions? Quelle est l'émotion? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'énervement? Est-ce que c'est une énorme colère? C'est pour ça que je dis souvent, pour avoir des réponses claires, il faut poser des questions claires. Et généralement, les gens ne posent pas des questions claires. Ils sont certains que la question véhicule tout ce qu'ils ont envie de dire, mais non, elle est très vague. Et pour pouvoir aider la personne, c'est difficile parce que là, j'ai pas comment gérer ces émotions. Quelle est l'émotion que tu as? Je ne sais pas. Donc, je vais partir sur l'anxiété et le stress. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'anxiété, le stress, c'est normal. Ces histoires d'émotions négatives, je ne prends pas les choses comme ça. Pour moi, chaque émotion véhicule un message. Si tu es anxieuse, peut-être que tu es dépassée, tu es stressée, certainement pas que j'ai dépassé comme j'ai dit. Et là, il faut mettre des mécanismes en place. Quel est ton processus de gestion de crise? Est-ce que tu en as un? Ou alors tu attends chaque fois qu'une crise se présente et puis tu essayes de faire comme tu peux par rapport à la situation. Est-ce que ton équipe a un processus de gestion de crise? Qui fait quoi? Quoi fait où? Quels sont les procès? Quelle est la marche à suivre? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que les crises que tu as eu à gérer, tu les as documentées? Est-ce que tu les as documentés? Tu t'es dit, ok, d'accord, cette crise-là, on a fait face à ça. Où est-ce qu'on a fait? Quand j'évalue, on a mal fait ceci, on aurait dû faire ça. Ça, on a bien fait. Donc là, par rapport à ce type de crise, voici le plan. On le documente et on l'archive. Comme ça, quand la crise, quand une crise semblable se présente, on a un document. On a une stratégie. On sait ce qu'il y a à faire. Généralement, on est dépassé quand on ne sait pas quoi faire. Si tu restes dans l'attente de la survenue d'une crise, tu seras toujours dépassé. Et pour ce qui est des émotions, c'est normal d'être stressé, c'est normal d'être anxieux, c'est normal d'être dépassé. Ça vient avec, it comes with the territory. So, c'est pas quelque chose qui est mauvais ou qui est effrayant. Non, c'est normal. Il faut juste que tu saches comment désamorcer la bombe. Et ça, c'est en étant prête. On ne peut pas être prête pour toutes les crises qui existent. Mais si tu sais que ton poste, c'est un poste où tu as souvent des crises, documente-toi de manière agressive sur la gestion de crise. Et si possible, fais une formation. Fais une formation. Fais tout ce qu'il faut pour que tu te dises, je suis équipée. Et quand la crise se présente, tu es vraiment équipé. So, do what you have to do. Doit-on faire des études de management pour gérer une équipe et développer facilement son leadership? Les études de management ne vont pas développer ton leadership. Comme je dis, c'est deux choses totalement différentes. Donc, il te faudra management et leadership. Est-ce qu'on doit faire des études de management ou de leadership? La réponse est oui et non. Moi, quand je gérais des équipes, j'avais pas fait d'études de management, j'avais pas fait des études de leadership. Je m'étais tellement agressivement documenté sur le sujet que je savais relativement non, parce que j'avais toujours les meilleurs résultats. C'est pas de la frime. On se connaît, je suis très à cheval sur ce que je produis. Donc, j'étais équipée. Et j'avais, à cette époque-là, j'avais une règle simple. Mon rôle, ce n'est pas de micromanager. Mon rôle, ce n'est pas d'exiger une façon de faire. Mon rôle, c'est de mettre en place le cadre pour que tout soit fait. Et j'avais fait asseoir mon équipe quand on avait commencé à travailler ensemble. Je leur avais dit, ça ne me regarde pas en fait comment vous allez atteindre des objectifs. Chacun a sa façon de travailler. Je peux vous imposer ma façon de travailler. Chacun est productif par rapport à comment il évolue. Donc, je vous permets de travailler selon ce qui vous rend le plus productif. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on reste aligné sur la mission, c'est qu'on reste aligné sur la vision et qu'on ait les meilleurs résultats de l'entreprise, de l'organisation. J'ai jamais travaillé pour une entreprise, de l'organisation. Et on y est toujours arrivé. Parce que ce que moi je faisais, c'était m'assurer que l'équipe a ce dont elle a besoin. Donc ça, je pense que tu peux le développer sans avoir de diplôme en la chose. Tu peux le développer. Après, si tu veux aller plus loin, tu peux le développer et ça va marcher pendant un moment quand tu commences à évoluer. Mais à un moment donné, tu vas stagner parce que ça ne peut que t'emmener jusqu'à un certain niveau et tu vas devoir faire ce qu'il faut pour aller plus loin. Donc, te former. Est-ce que je recommande de se former immédiatement? Si c'est possible, fais-le. Comme ça, tu gagnes en temps. C'est pas possible. Cultive le management et le leadership en toi. Pas en te couchant dans ta chambre et en méditant, mais en lisant. En lisant. Et puis, n'oublie pas qu'il y a de très grandes universités, des universités prestigieuses qui offrent des formations gratuites. Tu n'auras peut-être pas de certificat parce que tu n'auras pas payé, mais tu peux suivre le cours. Si tu n'as pas les moyens de payer, tu peux suivre le cours. Par contre, sur les moyens de payer, moi, je recommande la formation d'Harvard sur le leadership. Elle est on point. C'est-à-dire que elle est merveilleuse. Si tu l'apprends de manière individuelle, tu feras le cours pendant, je pense, 8 semaines et tu paieras nettement moins que si tu prends le cours dans le cadre d'un programme, parce que les programmes sont nettement plus chers. Ensuite, comment montrer qu'on a les compétences nécessaires pour manager une équipe, pour être considéré pour la position de manager, en allant au-delà de ses compétences en tant qu'employé pour le rôle que tu as? Tout à l'heure, je l'ai dit, les compétences dont on a besoin ne sont pas les mêmes. Tu peux être la meilleure analyste financière qu'il faut sur cette terre, ça ne veut pas dire que tu seras une bonne gestionnaire d'équipe. Tu dois développer ton leadership et tu dois apprendre, il y a ce truc dont on ne parle pas, tu dois apprendre à leader par le bas. C'est-à-dire que généralement on se dit, je ne peux qu'être leader que si je suis à un poste de décision. Non. Être employé, c'est aussi savoir manager son N plus 1, la personne qui est au-dessus de nous. Si tu apprends à manager cette personne-là, si tu apprends à être l'outil, l'asset qu'il faut pour lui permettre de mieux faire son travail, la personne comprendra que tu as cette aptitude-là. Tu peux encadrer une personne pour la propulser. Ça, c'est déjà une forme de preuve que tu n'es pas que bonne dans l'analyse financière. Tu peux aller bien au-delà. Si vous voulez d'autres tips and tricks, dites-le-moi en commentaire et puis on fera un autre épisode dessus. Donc la question suivante, c'est est-ce obligatoire d'avoir des diplômes d'école privée très chères comme HEC Paris pour aspirer à certains postes? La réponse est non. J'ai fait toutes mes études universitaires dans une université publique au fin fond du Cameroun. Mais j'ai eu de très, très, très bons postes dans des organisations internationales. Je n'ai commencé à me former dans de grandes écoles, des écoles prestigieuses. Par exemple, là, tout à l'heure, je disais que je suivais un programme, c'est à Harvard, la Harvard Business School. Je n'ai commencé à le faire que quand j'ai décidé de me mettre à mon compte à 100%. Donc, tout mon parcours professionnel en tant qu'employé, quel qu'a été mon poste, reposait sur mes diplômes de mon école, de mon université de Bouya au Cameroun. Donc non, tu n'as pas besoin de sortir de HEC Paris pour pouvoir briller dans ce que tu fais. Après, c'est vrai que tu as, au niveau des interactions, on te fera peut-être sentir que, bon, écoute, nous, on sort de grandes écoles, mais à la fin de la journée, là, sur le terrain, ça ne compte pas. Tu peux sortir d'une grande école, mais tu es nullissime sur le terrain. Et moi, je sors de mon école privée, de mon université publique, et je brille. Donc après, il ne faut pas trop s'arrêter dessus. Il ne faut pas se dire que les meilleures compétences viennent forcément des meilleures écoles, parce que ce n'est pas vrai. Je me souviens que quand je parlais de mon parcours universitaire, les gens étaient étonnés. « Ah, tu n'as pas étudié à l'étranger ?» Non, je peux sortir aussi de mon petit village là-bas et briller. Il suffit que je continue de me former, de m'informer, que je m'assure d'être la meilleure dans mon domaine pour faire ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de sortir de Yale tout de suite. Non, je peux faire Yale plus tard, comme je le fais en ce moment. Donc, est-ce que j'ai besoin de sortir d'HEC? Non, ça, c'est un complexe. C'est un complexe que je comprends, parce que souvent, on te dira que seuls ceux qui sortent de ces écoles-là sont méritants. Non. Tu es méritante si tu fais ce qu'il faut pour être la meilleure. Et je continue de dire que la lecture, que l'éducation, que l'information de manière agressive, c'est la meilleure arme pour être la meilleure sur le marché. Ne te dis pas que quand l'école est finie, c'est fini et puis c'est bon. Non, tu dois lire, tu dois t'informer, tu dois rester on top, c'est-à-dire que tu dois rester à la pointe de l'information dans ton domaine. Tu dois comprendre quelles sont les nouvelles tendances. Tu dois pouvoir analyser l'environnement pour prévoir, je vais dire, l'avenir de ton domaine dans une certaine mesure. Parce que regarde, aujourd'hui, on parle d'IA, on parle de ChatGPT. Est-ce que tu sais aujourd'hui comment est-ce que ChatGPT, dans toutes ses dimensions, peut t'aider à faire un meilleur travail? I'm not sure. Est-ce que tu as acheté un livre sur comment est-ce que l'IA peut aider dans l'analyse financière? I'm not sure. Those are things that you have to do. Ce n'est pas seulement HEC. Comment est-ce que je t'éduque? Est-ce que je te forme? Comment est-ce que je t'informe? La question suivante, c'est la dernière question d'ailleurs. Comment faire partir le syndrome de l'imposteur quand tu sais que tu en es capable, que tu l'as expérimenté, mais que le recruteur, ça s'arrête à que le recruteur, je suis certaine que c'était, je me dis, du moins, je suis certaine, non. J'ose penser qu'elle voulait dire que le recruteur ne le voit pas. Le recruteur ne voit que ce que tu montres. Ça, il faut être clair dessus. Le recruteur ne voit que ce que tu montres. Ce que je ne montre pas, il ne le verra pas. Beaucoup de gens pensent que les interviews, c'est je n'ai qu'à aller être moi-même et ça ira. Non. J'ai toujours été nullissime en interview. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à mon tout dernier boulot, je n'ai jamais été prise en interview. J'étais nulle, nulle, mais j'adore nullissime. Vous me direz, mais comment c'est possible? Tu as toujours dit que tu étais brillante dans ce que tu faisais, tu avais de bons résultats. Ce n'est pas lié. Et c'est l'erreur qu'on fait. On lit tout. Ce n'est pas lié. Une interview, c'est te vendre. Et te vendre, c'est pas parce que tu es la meilleure analyste financière que tu sauras te vendre. Ce n'est pas lié. Tu dois pouvoir te marketer, c'est-à-dire que comment est-ce que tu te présentes, comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis. J'ai commencé à être bonne en interview quand je me suis fait former par un cabinet RH, qui malheureusement en sommeil en ce moment, j'en ai beaucoup parlé à l'époque quand je travaillais avec eux, ils ont fait un boulot magnifique. Quand je cherchais quand je me suis lancée sur le marché du travail, il y a quelques années que je voulais un nouveau boulot, j'ai fait appel à eux et ils m'ont formée dans la présentation d'un CV. Qu'est-ce que tu mets en avant? Qu'est-ce que tu ne mets pas en avant? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Et en interview, que signifient les questions qu'on te pose? Je le dirais toujours, je pensais que la question « présentez-vous », c'était « présentez-vous ». Non? La question, présentez-vous. Moi, je réponds en disant, ouais, je suis camerounais, je viens d'ici, je viens de ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci. No one cares. La question, présentez-vous, ne veut pas dire, dis-moi d'où tu viens, où tu es né, et quand était ton dernier repas. Non. Est-ce que tu t'es fait former par des professionnels qui t'ont dit, voici la tenue à avoir en interview? Est-ce que tu mets toutes les chances de ton côté pour te vendre comme il faut? Oui, non, ils verront ma personnalité pétillante. Peut-être que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Est-ce que ta personnalité pétillante va analyser les documents comme on veut? Tu peux venir tout sourire, bien habillé, tout ce que tu veux. Mais si tu ne montres pas que tu as ce qu'ils recherchent, tu ne seras pas prise. Et pour ça, il faut savoir te marketer. Comment est-ce que tu te vends? Et souvent on dit, oui, je connais mes points forts, je pourrais aller les... Non. Moi, je me souviens quand j'ai travaillé avec ce cabinet-là, ce que je pensais être mes points forts étaient mes points faibles. Et ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu mets ça sur ton CV, en fait? Pourquoi est-ce que tu mets ça sur ton CV? Et pourquoi est-ce que tout ceci que tu as eu à faire n'est pas sur le CV? Par exemple, j'ai toujours blogué. J'ai commencé à bloguer il y a plus d'une dizaine d'années, et je ne mentionnais ça nulle part, alors que j'étais dans des posts, alors que je travaillais dans la communication. On ne sait pas que tu écris, on ne sait pas que tu as des compétences en production de contenu audio, on ne sait pas que tu as une newsletter, on ne sait pas que tu sais faire tout ça, mais on parle de communication. Et tu ne dis pas que tu fais tout ça, parce que tu estimes que ce n'est pas dans le cadre du travail. Pourtant, justement, le faire hors du cadre du travail montre à quel point tu es « dedicated ». En ce qui concerne le fait de véhiculer des messages. Et moi, j'étais là, j'ai raconté ma vie sur le CV. Ils m'ont dit, mais ce CV, on le déchire. Personne ne le lira. Donc, est-ce que tu t'es fait former pour savoir te vendre en interview? Fais-le. Le recruteur ne veut pas deviner en te voyant que, oh non, elle semble timide, mais j'ai l'intuition que non. Il va voir 7 comme toi. Et si tu parles mal, on prendra celle qui parlera mieux. Donc, allie à ta compétence, à ton expérience, ta capacité de te vendre. Et pour ça, si tu as besoin d'aide, paye. Parce qu'il y a ça aussi. On pense que l'argent, c'est seulement pour les habits et pour les sorties. Non. Paye pour pouvoir te mettre en avant. Paye pour pouvoir remplir ton cerveau. Paye pour pouvoir évoluer. Paye. Tu vois que les livres derrière moi, là, ceux qui écouteront le podcast ne vont pas les voir, mais j'ai énormément de livres chez moi. Les livres coûtent cher. C'est pas pour frimer que je les achète. Si, par exemple, je n'avais pas pris ce livre-ci et que je l'avais pas lu, comment est-ce que j'aurais pu vous le recommander? paix. N'aie pas peur de dépenser de l'argent pour évoluer. N'aie pas peur de dépenser de l'argent pour te mettre au niveau où tu veux être. Paye. Et ce sera mon dernier mot. Avant de partir, je dirais ceci. Ça a été un plaisir de parler de travail aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps, plus d'un an d'ailleurs, qu'on ne s'est pas posé pour discuter d'évolution professionnelle. Et j'ai vraiment aimé, et j'aimerais le refaire plus souvent. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des aspects que j'ai abordés, vous voulez qu'on creuse un petit peu plus, dites-le moi en commentaire ici sur YouTube ou sur Spotify. Malheureusement, Spotify est la seule plateforme d'écoute de podcasts audio qui permet de faire des commentaires. Donc, si tu es sur Spotify ou alors si tu es sur un autre réseau d'écoute, viens sur YouTube et commente tout simplement et puis je tiendrai compte de ton commentaire. J'ai des places de libre en ce mois de juillet si pour un accompagnement. Donc si tu es bloqué sur le plan professionnel et que tu veux évoluer, écris-moi à c.befoun@caramelico.com. Explique-moi quel est ton problème et on verra ensemble comment travailler pour débloquer tous ces problèmes que tu rencontres. Sur ce, people, bye. 1, 2, 3.